Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
C'est la dernière partie de Clap. Déjà, merci d'être au rendez-vous sur Europe 1 et merci à mes spécialistes du jour d'être à mes côtés. Franck Vallière du Canal+, vous êtes avec moi depuis le début de cette émission.
Quelle joie.
Karel Fitoussi de Paris Match, bonjour.
Bonjour Laurie.
Et Sophie Grèche de Pardon le cinéma, bonjour.
Bonjour.
Alors on commence ce tour d'horizon des sorties salles avec L'Origine du Monde. On en parlait il y a 2 semaines en compagnie de Laurent Lafitte. Donc voilà, vous savez déjà tout sur ce film. Mais pour rappel, c'est son premier long métrage, l'adaptation d'une pièce de théâtre de Sébastien Thierry qui raconte les mésaventures d'un homme qui se rend compte qu'il est vivant mais que son cœur ne bat plus. C'est extrêmement drôle et c'est au cinéma en ce moment.
Écoute mon cœur.
Je t'écoute.
Non, écoute mon cœur.
Ah, oui.
Alors, qu'est-ce qui m'arrive?
Je comprends rien.
C'est ahurissant. Ton cœur ne bat plus.
C'est grave.
Disons que quand on est mort, c'est pas grave. Mais étant donné que t'as l'air vivant, c'est préoccupant. Je vais te réanimer.
Mais je suis animé.
Préfère te briser deux ou trois côtes que te regarder mourir.
Et on écoute tout de suite vos réactions.
J'ai trouvé que le film était vraiment cool. Très belles images, très bonne histoire et beaucoup de folie qu'on retrouve dans très peu de films.
C'est original, on peut pas dire c'est original. C'est déconnant.
J'ai beaucoup aimé, je me suis beaucoup amusée. J'attendais pas ça vraiment parce que le titre m'avait pas inspirée au départ.
J'étais presque dans les scènes, moi. Bah, c'est formidable, quoi, parce que faut oser, hein. Et bravo, vraiment, hein. J'ai adoré.
Alors, on parle aussi d'un film qui fait du bien, c'est Les Amours d'Anaïs, emmené par Anaïs de Moustier, qu'on aime beaucoup ici, il faut le dire. Pleine de charme, comédienne, je vous le rappelle, lauréate d'un César en 2019 pour Alice et le maire de Nicolas Parizère. Et donc, qui séduit dans cette comédie légère qui a été découverte à la Semaine de la Critique à Cannes, puis présentée récemment au Festival d'Angoulême.
J'ai beaucoup aimé cette histoire. Anaïs de Moustier était fraîche, vive. J'ai vraiment beaucoup aimé.
Un film sympa, c'est une jolie histoire d'amour. C'est un beau film, c'est un beau film touchant.
Alors voilà, c'est des avis plutôt positifs. Vous en avez pensé quoi, Karel Fitoussi?
Alors moi je trouve que c'est un film absolument magique et solaire. C'est un bonbon, c'est top 10 de l'année, les doigts dans le nez.
Et ça arrive.
C'est le premier film d'une réalisatrice de 35 ans qui s'appelle Charline Bourgeois-Taquet, qui s'était fait remarquer déjà à la Semaine de la Critique pour un court-métrage qui s'appelait Pauline Asservie, qui parlait d'aliénation amoureuse. C'était une comédie dans laquelle Anaïs attendait pendant tout un week-end à la campagne un texto de son amant qui n'arrivait jamais. Et c'était absolument hilarant. Et c'était déjà, tout était là, à la fois littéraire et en même temps très moderne, puisque le smartphone était au cœur de l'intrigue. Et elle nous refait le coup avec Les Amours d'Anaïs, qui cette fois est donc un premier long. Ça commence comme un marivaudage, somme toute classique, quelque part entre Rapneau, Romère et De Broca. Un triangle amoureux donc en appartement haussmannien avec la femme, la maîtresse et l'amant. Il y a des dialogues qui fusent, le rythme est formidable. Anaïs de Moustier au milieu de tout ça, je ne l'ai jamais vue aussi, je ne vais pas dire bonne parce que ça pourrait être mal pris, mais aussi merveilleuse, elle est vraiment sublissime et très très drôle. Et très vite ça part ailleurs, c'est-à-dire que la réalisatrice tord tous les codes du marivaudage pour transformer son marivaudage en comédie romantique très moderne et très libre. Je trouve que c'était le film le plus aphrodisiaque de Cannes 2021. J'ai adoré. Je voudrais vivre dedans. Voilà.
Bonjour, je suis Anaïs.
Ah oui, Anaïs.
Je suis venue parce que j'ai envie de vous voir.
D'accord.
Je vais te demander un truc qui va te sembler incongru. Je veux pas être emphatique ou grandiloquente, mais enfin, tu as mon destin entre les mains.
Putain, mais qu'est-ce que tu racontes?
J'ai besoin de me retrouver seule avec Émilie.
Vous voulez pas qu'on se promène?
Vous écrivez sur quoi?
T'es indiscrète.
Daniel? On peut savoir ce que tu fais là?
J'ai pas de compte à te rendre sur les visites que je fais à ma femme.
Ma femme? C'est quoi ce sentiment de propriété inadmissible? Elle est pas à toi, Émilie. Hein. Vous êtes même pas mariée en plus.
Non mais on est vraiment chez les dames.
Sophie Grèche.
Oui, alors je suis complètement d'accord. Et plus que solaire, j'ai trouvé ça aussi très aérien. C'est vrai que ce triangle amoureux aurait pu être très dramatique, même si c'est sur fond de comédie, ça aurait pu être très chabrolien ou presque dans le théorème avec finalement des amours qui se séparent, très exacerbés. Et ce que je trouve passionnant, c'est que ça confronte deux passions, c'est-à-dire la passion de la jeunesse, qui est très forte mais très éphémère, et la passion déraisonnée de l'adultère.
Franck Vallière, une voix d'homme.
Ouais.
Qui est conquis aussi.
Tout à fait conquis. On sent que c'est une réalisatrice qui aura bien des choses à nous raconter parce que le propos est là, la façon de le filmer est là, même si je regrette un tout petit peu cette scène de baiser fougueux entre deux personnes que je ne spoilerai pas, qui pour le coup, on ne peut plus filmer des scènes comme ceci. comme on le faisait dans les années 60 dans des Hitchcock avec la bouche fermée. Si on roule des pelles, il faut rouler des pelles. Mais ça, c'est un petit détail. Et à côté de ça, par contre, il y a quelque chose d'absolument fascinant, je trouve, dans le personnage que joue Anaïs de Moustier, qui est extrêmement moderne, dynamique et positif. C'est pas comme dans la plupart des films français ou en comédie dramatique où on a des personnages qui se cherchent. Là, elle est là pour se trouver. Et elle finit par se trouver au travers d'une certaine liberté toute azimut, qui est assez jouissive, et même pour moi en tant qu'homme, que j'ai trouvé absolument délicieuse.
Alors on parle de Dune, c'est sans doute avec James Bond le film le plus attendu de l'année, l'adaptation par le Canadien Denis Villeneuve du best-seller de science-fiction de Frank Herbert. Et rassurez-vous, si vous n'avez pas lu le livre, c'est pas grave, on peut totalement comprendre le film. Déjà, on va écouter ce que vous en avez pensé.
Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu le livre et qui attendaient ça depuis des dizaines d'années et que c'était ouf. Il n'y a pas d'autre mot. J'ai juste été bluffé. C'était fabuleux. C'était grand, c'était beau. C'est ça qu'on a envie de voir au cinéma.
Des fois, on est déçu parce qu'il y a énormément d'attentes pour un film et là, bah, c'est conforme aux attentes. Au niveau de la photo, c'est incroyable. Au niveau du travail du son, bah, même le jeu des acteurs, c'est vraiment incroyable. On a un casting de fou.
Le film est fantastique, donc allez-y puisqu'apparemment, il faut financer la partie 2. J'ai très bien compris l'histoire pour le coup et du coup, je suis vraiment rentrée dans l'univers.
C'est incroyable. C'est la première fois que je vois ce genre de film, je crois. C'est vraiment époustouflant. On a hâte de voir la suite.
Tout était franchement impressionnant.
Tout était franchement impressionnant. Et pour vous, Karel Fitoussi, c'était impressionnant ?
Disons que ça m'a fait l'effet de ces... ça m'a fait l'effet de ces films, vous savez, qui servent dans les magasins de Wi-Fi à régler le son et l'image. Et surtout, je suis un peu lassée de cette vision complètement binaire du bien et du mal qu'il y a dans ce genre de film. Ou avec toute la symbolique très lourde de donc les méchants qui sont sur la planète très sombre et ils sont tous en train de grogner versus les gentils qui ont un teint de rosé et des taches de rousseur comme Timothée Chalamet.
Eh ben, je suis complètement d'accord. J'aime beaucoup Denis Villeneuve, j'aime beaucoup son travail, notamment quand il était encore au Québec avec des incendies. Et même quand il a commencé à travailler aux États-Unis, j'aimais comme il filmait le mal, et notamment dans Prisoners, qui est certainement...
Prisoners, Sicario.
C'est ça, exactement. C'était certes aseptisé, mais ça allait quand même dans l'intime. Et ce qui me gêne, et ce qui me gênait déjà dans son adaptation de Blade Runner, c'est qu'il aseptise tout pour en faire que de l'image. Et...
Mais quelle image !
Il le fait Non, mais c'est incroyablement beau. C'est vraiment léché. Il n'y a pas un détail qui détonne. Mais pourtant, est-ce qu'on s'ennuie pas un peu ?
Alors, 2h35, mais bon, moi, je trouve que c'est quand même du grand cinéma. C'est une expérience à vivre, en tout cas, sur grand écran. Et si vous avez aimé le roman, en tout cas, vous ne serez pas déçus. Si vous n'avez pas lu le roman, vous pourrez tout comprendre. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre avis.
Il se passe quelque chose en moi. Quelque chose s'éveille dans mon esprit, je n'ai aucun contrôle dessus.
Qu'est-ce que tu as vu ?
Une croisade se prépare.
Alors 2h35, mais bon, moi je trouve que c'est quand même du grand cinéma. C'est une expérience à vivre, en tout cas sur grand écran. Et si vous avez aimé le roman, en tout cas vous ne serez pas déçus. Si vous n'avez pas lu le roman, vous pourrez tout comprendre. Donc voilà, à vous de vous faire votre propre avis. Alors, on voulait absolument vous parler d'un documentaire choc sorti mercredi, consacré à la peine de mort aux États-Unis, qui a fait énormément parler, à l'état du Texas contre Melissa. Moi, rien que d'en parler, rien que de me remémorer ce documentaire, j'ai les larmes aux yeux, mon cœur de maman qui éclate littéralement. C'est vraiment l'histoire d'un double combat, celui de la réalisatrice Sabrina Van Tassel pour dénoncer une erreur judiciaire, une condamnation à mort sans véritable procès équitable, et le combat de cette mère de famille nombreuse que tout accable, 14 enfants, pauvre, drogué, accusé d'avoir tué sa fille qui attend depuis 11 ans que la vérité soit rétablie. Et peut-être que grâce à vous, Sabrina, enfin, elle va voir son calvaire se terminer. Merci d'être avec nous.
Merci.
Déjà, merci. Je voulais vous dire bravo, parce que c'est quand même incroyable de se dire que cette femme qui le dit clairement, sa vie n'avait plus aucun espoir. Grâce à vous, elle voit renaître une lueur d'espoir. C'est tellement beau. Est-ce que ce n'est pas l'essence de votre métier de journaliste ?
Ma rencontre avec elle, c'est un accident, en fait. Mais c'est aussi le destin. Ça a vraiment été une rencontre incroyable, et je lui dis souvent, elle m'a autant apporté que je lui ai apporté, je pense. Donc oui, effectivement, c'est la rencontre de deux femmes et le regard d'une femme sur une autre femme. Avant moi, elle n'avait jamais été interviewée par personne. Elle était complètement, on va dire, séparée, isolée, et elle n'avait plus contact avec sa famille, parce que beaucoup de condamnés à mort... Au moment de la sentence, en fait, c'est une exécution immédiate, quelque part, psychologiquement.
Bien sûr.
Et la famille, il n'y a plus d'espoir. Donc, ils laissent tomber, ils n'écrivent plus. Et donc, en fait, moi, quand je suis arrivée dans sa vie, bon, l'histoire semblait assez claire, comme vous l'avez dit, elle cochait un peu toutes les cases. Sur le papier, bon, bah voilà, c'était une femme pauvre qui avait trop d'enfants, qui avait eu un passé de drogue et elle avait dû craquer, quoi. Enfin, c'était ça, c'était très clair. Et puis, quand je l'ai rencontrée, et surtout quand j'ai rencontré sa famille, même avant elle, je me suis rendu compte qu'en fait, tout ça était bien plus compliqué. Et donc, en fait, ça nous pousse dans nos retranchements, c'est-à-dire que même les histoires qui peuvent paraître les plus simples du monde ne le sont pas. Et Mélissa Lucio, elle a eu un procès qui a duré 4 jours, dans lequel, complètement à charge, dans lequel aucun de ses enfants, qui avaient pourtant vu leur petite sœur tomber des escaliers, n'ont eu le droit de témoigner, aucun des voisins, aucun membre de sa famille, personne.
Les enfants
personne.
Qui en plus expliquaient clairement que leur mère n'a jamais été violente et qu'elle avait quand même encore 13 enfants, puisque donc une est décédée, en avait 14. Les 13 s'accordaient à dire qu'elle n'avait jamais été violente.
Oui, alors ça c'est très important de le signaler. Moi je suis grand reporter, hein, j'ai fait une quarantaine de documentaires, surtout des sujets très, très lourds comme ça. On ne devient pas psychopathe du jour au lendemain.
Bien sûr.
Ça n'existe pas. Donc c'est vrai que moi j'ai lu les 3000-4000 pages des rapports des services sociaux et elle n'avait jamais été violente envers aucun de ses enfants. D'ailleurs, elle n'avait jamais été violente envers des adultes. C'était quelqu'un qui n'est pas violent.
Sophie Grèche.
Comment on se confronte notamment, on voit au cours du documentaire qu'une de ses filles a peut-être un rôle à jouer là-dedans. Comment vous êtes confrontée à ce personnage très ambivalent? Je parle de personnage parce qu'on parle du documentaire, mais comment vous êtes confrontée à elle?
Écoutez, moi, c'était une victoire. Hein. À chaque fois que j'arrivais à, et je crois qu'on le sent dans le documentaire, à chaque fois que j'arrive à retrouver quelqu'un qui veut bien me parler, c'est une victoire. Effectivement, cette fille qui avait 15 ans à l'époque a dit quand même à deux détectives privés à 5 ans d'intervalle qu'elle était responsable. Qu'elle était responsable de la chute de sa petite sœur. Qu'elle n'aimait pas.
Qui n'était pas du même père.
Qui n'était pas du même père, qu'elle n'aimait pas. Il y avait trop d'enfants. Et dans les familles latinos, c'est souvent les grandes sœurs qui s'occupent des plus petits. Elles n'en pouvaient plus. Et donc, en fait, s'il y avait quelqu'un qui était maltraitant, c'était elle. Quand elle est arrivée devant moi, c'était assez impressionnant parce qu'elle est venue avec sa propre petite fille, en fait. Et donc, effectivement, je me suis dit, OK. Elle essaye un petit peu de jouer sur la corde sensible. Maintenant, c'est une maman. Mais en fait, je pense qu'on voit qu'elle a vraiment quelque chose à se reprocher.
Et puis, elle était jeune à l'époque, mais pas si jeune.
Elle était adolescente.
Voilà. Elle était quand même... considérée qu'elle était responsable de ses actes. Comment est-ce que Mélissa, elle vit votre rencontre? Elle est dans quel état d'esprit aujourd'hui? Est-ce qu'elle retrouve du courage? Parce que ce serait terrible, finalement, après tout ça, qu'il ne change pas le verdict.
Oui, bon, moi, je ne peux pas l'imaginer, mais tout est toujours possible, malheureusement. Mmh. Bah, Mélissa, en fait, n'a pas pu voir le film parce qu'elle est donc dans le couloir de la mort 24 heures sur 24 seule et elle n'a le droit à rien. Mais Mélissa, du jour au lendemain, parce que le film a été diffusé sur une grosse plateforme aux États-Unis qui s'appelle Hulu, qui est concurrente à Netflix, du jour au lendemain, elle a reçu des tonnes de courriers. Donc, elle qui n'était personne, du jour au lendemain, eh bien... Il y a des gens qui tweetent sur elle tous les jours. Donc oui, effectivement, elle a de l'espoir aujourd'hui.
Parce qu'elle le dit dans le documentaire, hein, c'est dur de se réveiller chaque matin dans la même cage. Tout est si dur, comment avoir de l'espoir? C'est dur de tourner la page alors que ma vie n'a aucun sens. Au-delà de cette enquête que vous révélez au grand jour, c'est aussi l'histoire d'une vie. C'est quand même une tragédie, la vie de cette femme abusée sexuellement dans sa jeunesse. C'est une vie de misère, de souffrance, de combat pour arriver à ce qu'il y a de plus terrible, c'est-à-dire perdre un enfant et être accusé à tort pour peut-être finalement protéger un autre, on ne sait pas, mais en tout cas, on se dit quand est-ce que le sort va arrêter de s'acharner sur cette pauvre femme, qu'elle puisse avoir quelques belles années pour elle.
Oui, il faut savoir que Mélissa, c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est-à-dire qu'il y a tellement, tellement d'hommes et de femmes comme elle, en fait, qui sont accusés à tort aux États-Unis.
Par rapport à la diffusion du film aux États-Unis, quel a été l'impact? Est-ce qu'il y a eu des retours sur le film qui ont peut-être été reçus en haut lieu? Ou je ne sais pas, est-ce que vous pensez que le film peut avoir un impact?
Le film a eu un impact
incroyable.
Mais ça
va être jugé.
Non, mais alors, elle, de toutes les façons, bon, elle avait perdu son dernier appel et sa seule issue était maintenant la Cour suprême des États-Unis. Mais ce qui a changé, ce qui a tout changé du jour au lendemain, c'est que quand le film a été diffusé sur cette plateforme, Du jour au lendemain, des millions d'Américains ont vu son histoire. Innocence Project, qui est une des plus grosses organisations qui défend les condamnés à tort, s'est alliée avec ses avocats. La plus grosse fac de droit, qui s'appelle Cornell à New York, s'est alliée également avec d'anciens procureurs. Donc du jour au lendemain, en fait, elle a, grâce au film, eu un soutien considérable.
Vous échangez encore avec elle en ce moment ?
Tout le temps. Et c'est la médiatisation, il faut bien le savoir, hein, qui va faire en sorte qu'elle ne sera pas exécutée.
Il faut en parler, il faut en parler autour de vous. Il faut aller voir ce documentaire, il faut le faire vivre au cinéma. Je crois qu'on a tous une responsabilité en fait, dans cette histoire. Tout le monde pourrait être à la place de Mélissa et il faut se battre, il faut sauver cette vie.
Exactement.
Merci beaucoup et encore une fois, bravo.